C'est une course folle aux nouvelles technologies. Tout ce qui est nouveau nous attire, hein, la nouveauté nous attire, c'est vrai, ça nous passionne. Tandis que ce qui est passé n'a plus aucun intérêt. Et c'est vrai que tout ce qui est nouveau nous attire et crée en nous une fascination extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu les personnes qui campaient devant un magasin pour être les premiers à l'ouverture du magasin parce qu'il y a un nouvel iPad ou je sais plus quoi, parce que moi je m'y perds dans ces choses-là, un nouvel iPad qui devait sortir. Oui, toute cette foule devant les magasins qui se pressaient, qui sortaient avec leur nouvelle tablette ou iPad, je sais pas quoi, et qui sortaient avec ça, ils étaient tout contents, là. Ah, comme si c'était quelque chose qui allait les rendre heureux. Nous sommes vraiment, nous plaçons notre espérance dans des nouvelles technologies et nous sommes persuadés qu'elles vont nous rendre heureux et qu'elles vont nous tirer d'affaires et de tous les problèmes. Par exemple, lorsqu'on parle du réchauffement climatique, bien, moi je vois parfois des débats à la télévision et il y en a toujours un qui dit oui, mais ouais, c'est vrai, bon, il y a le réchauffement climatique, il y a tel danger et tout ça, mais on va trouver quelque chose, hein. On va trouver une nouvelle technologie pour résoudre le problème que nous-mêmes on a créé. Et récemment, je regardais à la télévision, il y a une polémique en France, est-ce qu'on doit exploiter ou non le gaz de schiste. Et alors, j'ai assisté à un débat, et on dit que exploiter le gaz de schiste présente des dangers pour la population, pour l'environnement. Et il y en a un qui a dit, oui, mais c'est vrai, c'est peut-être dangereux, dans l'état actuel des choses, mais on va trouver quelque chose, hein. On va trouver quelque chose de nouveau, et pour faire en sorte que ce soit pas dangereux, que ce soit possible. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Conclusion, donc l'homme ne peut rien apporter de nouveau à l'humanité. Par contre, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu, lui, peut le faire. Dieu, il l'a fait. Dieu a fait une chose vraiment nouvelle, extraordinaire, énorme. Tiens, énorme, ça c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui, hein. Énorme. C'est amusant, comme à chaque génération, on se cherche des nouveaux mots, pour dire finalement la même chose qu'avant, quoi. Mais c'est nouveau, ça fait, on se distingue de nos aînés. Ce sont des nouveaux mots, mais c'est juste pour dire la même chose, quoi. C'est injuste aussi, ça, ce mot-là. Pas juste, juste nain. Le mot juste, on l'utilise aujourd'hui à tout bout de champ. C'est juste que. Ça vient de l'anglais. It's just. Alors on copie tout ce qui est anglais. C'est nouveau, on a l'impression de parler d'une manière nouvelle. Alors, si vous voulez vraiment être à la page, eh bien vous prenez le mot juste, et le mot énorme, et vous les mettez ensemble, et vous faites, c'est juste énorme. Et alors, vous serez à la page aujourd'hui. Donc, je disais que Dieu a fait une chose vraiment nouvelle. Et cette chose nouvelle que Dieu l'annonce déjà dans l'Ancien Testament, par la bouche du prophète Ésaïe. Et j'ai pris trois petits versets, dans Ésaïe, tout d'abord au chapitre 42, au verset 9, trois petits versets où Ésaïe parle d'une chose nouvelle, de choses nouvelles. Alors, au chapitre 42, au verset 9, Ésaïe dit: voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Un petit peu plus loin, au verset 19, 19. Non, pardon, au chapitre 43. 43, au verset 19. C'est Dieu qui parle par la bouche d'Ésaïe. Donc c'est Dieu qui parle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Et encore un petit peu plus loin, au chapitre 48, au verset 6, tu entends, considère tout cela, et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Et cette chose nouvelle que Ésaïe annonce, prophétise, c'est la venue de Jésus. La difficulté dans Ésaïe, c'est que Ésaïe prophétise en même temps à court terme, et donc il parle de la libération du peuple d'Israël, de ses ennemis, mais en même temps il prophétise à long terme, et il parle de la venue de Jésus, et même des deux venues de Jésus, de la venue de Jésus pour être crucifié sur la croix, mais aussi du retour de Jésus. Et donc, Ésaïe prophétise il parle d'une libération qui est bien plus importante. Il parle de la libération que va apporter Jésus. Dans Actes, au chapitre 8, au verset 34, l'eunuque, il dit à Philippe l'évangéliste, il dit, mais je ne comprends pas, de qui le prophète parle-t-il lorsqu'il parle du serviteur de Dieu? De qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même? Ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Et Philippe va lui expliquer que Ésaïe parle de Jésus. Donc, Ésaïe annonce une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle, ce que Dieu a fait, il est parfaitement expliqué dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait une vie éternelle. Ce que Dieu a fait est extraordinaire, parce que cela, il l'a fait volontairement. Il n'était pas obligé de le faire. Il a envoyé son Fils vers une mort certaine. Et il l'a fait non pas pour des gens bien, mais pour des pécheurs. Qui ferait une chose pareille? Est-ce que vous imaginez quelqu'un volontairement, un père volontairement, envoyer son Fils, non pas risquer sa vie, mais vers une mort certaine? Et en plus pour le faire sans espoir d'avoir quelque chose en retour. Qui ferait une chose pareille? C'est vrai que des parents ont été obligés de laisser partir leurs enfants à la guerre, mais c'était toujours dans l'espoir que, d'abord ils y étaient obligés, ils n'avaient pas le choix, mais c'était dans l'espoir que l'enfant revienne. Mais ici, Dieu a fait volontairement ça. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Ce que Dieu a fait surclasse tout ce que l'homme peut faire, parce que Dieu ne se contente pas de changer les choses autour de nous, mais il veut nous transformer en profondeur. Il veut faire de nous des êtres nouveaux. Et surtout, il veut nous sauver non pas pour un temps, non pas comme les hommes qui ils sont en train de résoudre un problème, et puis il y a un autre problème qui se présente, et puis ils sont chaque fois sauvés pour un temps. Dieu veut nous sauver pour toujours, pour l'éternité. Et nous n'avions aucune possibilité d'être reconnus au juste à ses yeux, mais lui, il nous a donné la solution en Jésus. Et ça, c'est cette chose nouvelle que Ésaïe annonce. Alors vous allez me dire, oui, mais Jean 3,16, c'est pas nouveau, hein, ça. Vous connaissez peut-être ça depuis de nombreuses années. Mais est-ce que vous êtes toujours aussi ému comme la première fois, comme quand c'était nouveau? La première fois que vous avez entendu ces paroles, êtes-vous encore aussi enthousiasmé comme au moment de votre conversion? Êtes-vous encore enthousiasmé ou êtes-vous comme l'église de Laodicée dont parle l'Apocalypse? Ni froid, ni bouillant, mais plutôt tiède. Est-ce qu'on pourrait peut-être projeter le chant numéro 37, qu'on voit les paroles de ce chant? C'est possible? Oui, dans ce chant, on dit « Oh, quelle grâce il a fallu !» Est-ce que vous êtes encore convaincu qu'il a fallu une grâce extraordinaire, inimaginable? Est-ce que vous avez toujours la crainte du Seigneur? Est-ce que cette grâce, elle a pour toujours éloigné la crainte de mon cœur, c'est la force suivante? Est-ce que cette grâce, ce que Dieu a fait, est-ce que cette grâce est ce que Dieu a fait, cet événement extraordinaire, est-ce que cette grâce vous tient toujours debout? Est-ce qu'elle vous conduit chaque jour? Est-ce que cette grâce vous suffit toujours? Alors ce matin, si vous êtes découragé, si vous êtes un peu refroidi, si vous êtes attristé par des épreuves de la vie, rappelez-vous ce que Dieu a fait pour nous. Rappelez-vous que Dieu, il aurait pu nous abandonner à notre triste sort, qui était la mort éternelle, mais qu'au lieu de cela, Dieu nous a donné le moyen d'être sauvés et de passer l'éternité. Rappelez-vous et prenez courage, Dieu vous a donné une opportunité d'être sauvé et vous l'avez saisie. Il vous a appelé et vous avez répondu. Dieu a fait une chose extraordinaire. Et nous qui avons cru au Fils de Dieu, nous en sommes les bénéficiaires. Alors je pense que nous pouvons nous réjouir. Parce que nous avons placé notre confiance, non pas dans les entreprises humaines, non pas dans la technologie nouvelle, mais dans cette chose nouvelle que Dieu a faite. Nous avons passé notre confiance en vous. Alors, plusieurs fois, j'ai utilisé le mot extraordinaire. Alors, le mot extraordinaire s'utilise pour parler d'une chose rare, très rare. Par exemple, ces comètes là, qui repassent tous les siècles, parfois. Mais ce que Dieu a fait n'est pas rare, ni même rarissime. C'est unique. Après Armstrong, d'autres cosmonautes ont marché sur la Lune. À un moment donné, vous voyez des gens, c'est presque si on ne jouait pas au football sur la Lune. Au point que ça n'intéressait plus personne. Rien de ce que fait un homme ne peut pas être fait par un ange. Et donc, Ecclésiaste a encore une fois raison lorsqu'il dit que les activités humaines se répètent inlassablement. On ne peut pas citer dans toute l'activité humaine un fait qui n'ait pas été répété par la suite. Par contre, Dieu a réalisé une chose qui ne se répétera plus jamais dans toute l'éternité. Pas parce qu'il n'en est pas capable, mais parce qu'il en a décidé ainsi. Parce que c'est sa volonté. Dieu ne donnera pas une seconde fois son Fils. Jésus ne reviendra pas pour mourir sur la croix, ni de quelque autre façon. Dieu ne va plus faire quelque chose de pareil. Je ne suis pas plus au courant des plans de Dieu que vous, mais c'est juste ce que... Oui, j'ai utilisé juste. C'est juste simplement ce que me dit la parole de Dieu. Et notamment dans Hébreux, au chapitre 10. à partir du verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez ici, l'auteur de l'épître s'adresse à des Juifs, donc, et il compare ce qui se faisait dans l'Ancien Testament et ce qui est à partir de Jésus-Christ. Et donc, quand on compare, eh bien, on voit que avant, avec les sacrifices, eh bien, vous voyez qu'il y a une répétition comme ça. On refait. L'homme fait des péchés, puis il va offrir un sacrifice, Dieu pardonne. L'homme refait des péchés, il fait un sacrifice, Dieu pardonne. Et constamment, Dieu répète, l'homme répète, alors que à partir de Jésus, eh bien, il y a une chose qui est faite définitivement. Si on prend le début du chapitre, le début du livre d'Hébreux, donc au chapitre 1, au verset 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Si vous comparez, par exemple, avec Job 33, verset 14, on lit, Dieu parle une fois et deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Donc d'un côté, on dit Dieu parle, et ici, on dit Dieu a parlé. Donc j'attire votre attention sur l'utilisation du temps, du passé composé ici. A parlé. Ça veut dire que j'ai regardé un petit peu dans ma grammaire, et le passé composé, ça s'utilise pour parler d'un fait qui s'est déroulé dans le passé, mais qui est achevé, terminé. Et moi, j'ajouterais accompli. Et Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Et dans Actes, au chapitre 4, au verset 12, nous pouvons lire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc vous voyez dans tous ces versets qu'il y a quelque chose de définitif. Dans l'Ancien Testament, Dieu a répété plusieurs fois certaines choses, il a accompli des prodiges, il a ouvert les eaux de la mer des roseaux, il a ouvert les eaux du Jourdain, il a fait tomber les murs de Jéricho, et bien d'autres choses encore. À chaque fois il répète des choses pour convaincre son peuple qu'il peut lui faire confiance. Et à chaque fois son peuple, il s'en va vers d'autres dieux. Et chaque fois Dieu répète des choses pour que son peuple revienne à lui. Mais ici, il y a quelque chose de définitif. Dieu a fait quelque chose une fois, définitivement. Dieu a parlé. Et ça ne se réfère pas à ce que Jésus a dit dans son enseignement. C'est vrai, c'est ce que Dieu a dit, mais il n'a pas parlé seulement en parole à Jésus. Il a parlé par des actes, en mourant sur la croix. Et lorsqu'on dit Dieu a parlé par son Fils, nous a parlé par son Fils, ça se réfère aussi à ce qu'il a fait. Alors tous ces derniers versets que je viens de lire, ces dernières paroles que nous venons de lire, eh bien pour moi, eh bien ça résonne un peu comme un avertissement solennel. Jacques a parlé la semaine passée de l'importance d'être dans le bon train, le train pour le royaume de Dieu, le train du salut. Eh bien ici, on pourrait entendre attention, le train pour le royaume de Dieu va partir. Mais aussi, il faut dire, il n'y en a pas d'autre. Car Dieu a donné une possibilité à l'homme d'être sauvé. Une possibilité, mais pour être précis et complet, il faut ajouter une seule. Une et une seule. C'est une expression qu'on utilise beaucoup dans le cours de géométrie. Je ne sais pas comment on apprend la géométrie aujourd'hui, hein, les mathématiques modernes. Mais voilà, mon frère Piotr, il va peut-être vous l'expliquer mieux que moi, parce qu'il est géomètre, mais en géométrie, eh bien, on dit, voilà, si on trace une ligne droite, et si on prend un point en dehors de cette ligne droite, eh bien, par ce point, il existe une parallèle et une seule à cette droite. Donc, il existe une parallèle, mais il n'en existe pas deux, trois, une infinité. Il existe une et une seule. C'est important parce que quand on dit « existe une possibilité », on peut dire « ouais, mais il y en a peut-être une deuxième, une troisième ». Non, il y a une et une seule possibilité. Il y a plusieurs trains pour aller à Bruxelles ou au Luxembourg. Et alors, si vous en ratez un, eh bien, vous montez dans le suivant. Oui, vous allez arriver en retard, mais vous allez quand même arriver. Mais il n'y a qu'un train pour le royaume de Dieu. Alors, réjouissons-nous, nous qui avons cru au nom du Fils de Dieu, parce que Dieu a mis à notre disposition un train et un seul, et nous sommes dedans. Par contre, si vous êtes toujours sur le quai, si vous hésitez encore, si vous dites, qu'est-ce que je fais? Je monte dans le train, je monte pas. Bien, n'attendez pas le suivant. Le train du salut peut contenir autant de personnes que Dieu le veut. Parce qu'au fur et à mesure qu'il se remplit, Dieu rajoute des nouveaux wagons. Par contre, il n'y a qu'un seul train. Donc, pour l'instant, ce train, il est à l'arrêt et il attend le signal. Pas le signal du chef de gare, mais le signal de Jésus, pour partir. Et au moment où il sera parti, eh bien à ce moment-là, il sera trop tard pour ceux qui seront restés sur le quai. Il sera inutile d'attendre le train suivant parce qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 7. Alors pour conclure, je dirais que l'événement le plus important de l'humanité, ce n'est pas le premier pas sur la Lune ou d'autres événements qu'aurait pu accomplir, quelle que soit la performance humaine. Eh bien, l'événement le plus important et qui a vraiment bouleversé l'humanité, qui a fait faire un bond de géant à l'humanité, eh bien cet événement, c'est la venue de Jésus sur la terre, pour mourir sur la croix pour nous. Voilà, je vais en rester là, et je vais terminer par la prière. Notre Dieu, Père Céleste, nous voulons te louer parce que ce que l'homme n'est pas capable de faire, toi tu es capable de le faire, toi tu peux le faire, et tu l'as fait. Tu as fait cette chose incroyable, tu as donné volontairement ton Fils unique pour mourir, pour aller vers une mort certaine. Et tu l'as fait non pas pour des gens bienveillants, justes, mais pour des pécheurs, Seigneur. Et tu l'as fait sans espoir de quel que soit retour. Seigneur, nous voulons te louer pour ça et te remercier parce que ce que tu as fait nous a changé nous-mêmes en profondeur. Cela a fait de nous des êtres nouveaux, Seigneur, mais surtout, cela nous ouvre les portes de ton royaume, Seigneur. Et nous avons cette espérance aujourd'hui et cette joie que nous allons être un jour pour l'éternité à tes côtés. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas encore saisi cette opportunité, Seigneur, qui hésitent encore, à monter dans ce train. Seigneur, nous te prions afin que tu touches leur cœur et leur esprit, afin qu'ils puissent prendre une décision aujourd'hui même, Seigneur. Seigneur, encore une fois pour ce sacrifice qui nous donne la vie. Seigneur, merci, au nom de ton Fils Jésus. Amen.